franceinter.fr. Matinale grand format.
Listen anywhere.
Sur France Inter.
Grand format avec notre invité ce matin, François Fillon, un peu plus de 2 semaines du premier tour de la présidentielle. Les dossiers internationaux à présent avec Bernard Guetta. Bonjour Bernard.
Bonjour Patrick.
L'actualité, ce sont d'abord ces images atroces, insoutenables, de jeunes enfants morts gazés. François Fillon, émotion mondiale, au point d'ébranler, on l'a entendu dans les journaux, Donald Trump, après ce bombardement d'une ville rebelle syrienne à l'arme chimique, crime attribué au régime de Bachar al-Assad, ce dont personne ne doute, sauf l'allié russe du régime syrien et vous, François Fillon.
La communauté internationale a banni les armes chimiques. Si des armes chimiques ont été utilisées, c'est un crime. Et ce crime doit être poursuivi. Il y a une organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui, en lien avec les Nations Unies, doit faire une enquête. Elle est d'ailleurs en cours, elle est diligentée. Et en fonction des résultats de cette enquête, la communauté internationale doit prendre les décisions qui s'imposent pour poursuivre les responsables de ce crime.
On peut difficilement être plus prudent.
Ah, moi, on condamne toujours quand on a les preuves, donc il faut qu'il y ait des preuves.
Donc les gouvernements occidentaux, le gouvernement français, le gouvernement américain sont en faute quand ils condamnent.
Non, je dis pas ça, je dis que les Nations Unies viennent d'engager l'enquête, ça y est, elle est déclenchée, elle doit avoir lieu, et si ces faits sont avérés, c'est un crime qui doit être poursuivi par la communauté internationale.
Je vous cite ce tweet d'Alain Juppé, d'hier matin,
les tenants de la...
vous l'avez vu, parce que vous êtes attentif aux réseaux sociaux. Je vais le citer quand même pour nos auditeurs. Les tenants de la realpolitik vont-ils encore oser nous expliquer que le régime de Bachar al-Assad est un partenaire fréquentable?
Alors,
je tourne vers vous.
Après, la question qui est posée, parce que moi je suis pas un commentateur, j'aspire à être président de la République, donc la question qui est posée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait face à cette situation. Il y a deux attitudes possibles. La première consiste à déclencher une opération militaire occidentale contre le régime de Bachar al-Assad.
Vous pensez que Trump est tenté de le faire, là?
Monsieur Trump est assez imprévisible, donc je ne sais pas ce qu'il est tenté de faire. Ce que je sais simplement, c'est que la réédition de l'affaire irakienne ne me paraît pas être une bonne solution.
Voilà. Même clouer l'aviation de Bachar al-Assad au sol?
La question qui va être posée si on fait cela, c'est la question de la relation avec la Russie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut peut-être éviter d'entrer dans un conflit direct entre les États-Unis et la Russie sur le sol syrien.
Donc, parce que la Russie protège le régime de Bachar al-Assad.
Donc c'est la raison pour laquelle je redis une nouvelle fois
normal.
Que si la question de l'intervention occidentale n'est pas la bonne solution, et c'est ma conviction, puisque l'intervention en Irak est une des causes du problème qu'on rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme autre solution, sauf à rester les bras ballants, comme c'est le cas depuis 6 ans, puisque ça fait 6 ans qu'on explique que Bachar el-Assad va tomber, et ça fait 6 ans qu'il est toujours là. L'autre solution, elle consiste à parler avec les Russes, avec les Iraniens, avec les Turcs, et à essayer de trouver une formule pour éliminer Bachar el-Assad et organiser la transition. Voilà.
Avec les Russes, les Iraniens et les Turcs,
oui,
pour éliminer Bachar el-Assad.
Bien sûr.
Il y a quelque chose qui colle pas dans la phrase. Les Russes et les Iraniens soutiennent le régime de Bachar el-Assad.
Pourquoi pensez-vous que les Russes et les Iraniens ne soient pas capables de changer de position? Si vous raisonnez comme ça, ça veut dire que vous restez dans la confrontation et vous n'avez donc plus que la solution de l'intervention occidentale.
Le problème, c'est que les Russes refusent de reconnaître depuis 2013, depuis le bombardement de la Ghouta, massacres commis par Bachar al-Assad contre son peuple.
Non, moi, je ne me résoudrai jamais à rester impuissant devant cette situation. Donc demain, si je suis président de la République, j'essaierai de faire en sorte qu'on parle avec les Russes, avec les Iraniens, avec les Américains, avec les Turcs, pour organiser la transition en Syrie. Sinon, on restera devant la situation qui est celle qu'on connaît. Ça fait 6 ans qu'on commente avec beaucoup en étant satisfait de respecter les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Mais pendant qu'on fait ces commentaires, les massacres ont lieu sous nos yeux. Et d'une certaine façon, je dis et je redis qu'on est un peu responsable de cette situation parce qu'on aurait pu empêcher qu'elle dégénère.
Pour faire évoluer une situation politique, il faut bien faire évoluer les rapports de force. Aujourd'hui, aucune sanction, même aucune réprobation de l'ONU n'a frappé M. Bachar el-Assad. Pourquoi voulez-vous qu'il ne continue pas dans ces conditions ?
D'abord, Bachar el-Assad est un personnage qui, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'il est... non seulement il commet des erreurs, il commet des crimes, mais il commet des erreurs politiques incroyables. Je veux dire, au moment où les Américains donnent le sentiment d'être en mesure de discuter avec lui, s'il a déclenché cette opération,
le sentiment d'impunité, c'est la raison.
Enfin, c'est plus un sentiment d'impunité, c'est de la folie, c'est de l'irresponsabilité. Bon, mais moi, je souhaite que le Conseil de sécurité le sanctionne. Je souhaite qu'il y ait un vote du Conseil de sécurité.
Et que les Russes acceptent.
Bien sûr, mais simplement, s'il n'y a pas la moindre possibilité de discussion avec les Russes, si personne ne veut évoluer, si personne ne veut changer de position, on va rester dans la confrontation. Donc, et cette confrontation, elle aboutit au massacre du peuple syrien.
Vous suggérez que notre position se rapproche de celle des Russes?
Non, je suggère qu'on ait une discussion. Si on veut faire évoluer les choses, il faut que tout le monde fasse un geste.
Tous les
tout
jours.
Le monde fasse un
Donc,
geste.
Que notre position se rapproche de
mais
celle des Russes.
Mais que les Russes aussi fassent des, bougent de position, évidemment.
Ça, c'est plus et qu'ils bougent au Conseil.
Bien sûr, il faut qu'ils bougent au Conseil. Mais pour qu'ils bougent au Conseil, il faut qu'ils aient le sentiment qu'il y a un dialogue possible. Sinon, où est-ce qu'on va?
On va
vers la guerre.
Il y a un dialogue. Monsieur Trump, depuis un an, dit j'adore Monsieur Poutine, je veux m'entendre avec lui, etc. Bien, les Russes n'évoluent pas et Bachar el-Assad encore moins.
Non mais attendez, Monsieur Trump, il est président depuis combien de temps? Depuis 3 mois.
Mais écoutez, il est candidat depuis un an. Hein.
Oui, mais enfin, c'est pas quand on est candidat, on discute pas avec les.
Ça a plu à Monsieur Poutine.
En tout cas, moi, ce que je refuse de faire, c'est d'aller vers la guerre. Voilà, parce que, enfin, cette confrontation entre l'Amérique et la Russie est une confrontation qui n'a aucun sens. Et moi, j'ai pas du tout envie que l'avenir de l'Europe, ça soit la confrontation avec la Russie.
Alors,
donc je veux qu'on discute, je veux qu'on parle, je veux qu'on cherche des solutions et des solutions pacifiques.
Alors, à propos de confrontation avec la Russie, une question qui est liée à une sorte d'approbation que vous avez semblé donner à une idée de Jean-Luc Mélenchon lors du débat à
oui.
TF1.
Oui, absolument. Vous n'avez pas semblé d'ailleurs, vous avez approuvé l'idée de Jean-Luc Mélenchon de l'ouverture d'une conférence sur les frontières en Europe, c'est-à-dire, pardonnez-moi, de l'ouverture de la boîte de Pandore, d'une chose que Vladimir Poutine lui-même ne demande pas. Pourquoi avez-vous cette position ?
Parce que je crois là, évidemment à la nécessité de respecter les frontières, mais je crois aussi à la liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes. C'est un principe qui est profondément ancré dans la doctrine des gaullistes. Et donc la question qui est posée, vous le savez bien, faut pas tourner autour du pot, c'est la question de la Crimée.
Bon, la question de la Crimée. Vous ne pensiez qu'à la Crimée ?
Oui, je pense.
Ou à d'autres problèmes frontaliers en Europe centrale et en Europe ?
Je pense à la Crimée. Parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Comment on sort de la question de la Crimée? Est-ce qu'on en sort en approuvant l'annexion de la Crimée par les Russes, ce qui est contraire au droit international? C'est pas ce que je propose. Est-ce qu'on en sort en restant campé sur nos positions et en exigeant que les Russes se retirent de la Crimée, ce qui n'aboutira à aucun résultat?
Donc de la situation, donc c'est pas si dramatique.
Si, c'est dramatique parce qu'il y a un peuple qui a le droit de s'exprimer, et donc je pense qu'il y a une conférence internationale à organiser sous l'autorité des Nations Unies.
Mais donc François Fillon, sur la Crimée,
oui,
pas
sur la Crimée.
Frontières en Europe.
Non, je laisse Jean-Luc Mélenchon vouloir redessiner toutes les frontières en Europe.
Ah, vous l'avez pas laissé, vous l'avez approuvé.
Mais
vous l'avez approuvé.
Oui, ce que j'approuve, c'est l'idée que on respecte les peuples. Voilà, je trouve insupportable cette idée que les frontières sont absolument intangibles, sauf quand c'est nous, les Occidentaux, qui les modifions. Donc il n'a pas tort, Jean-Luc Mélenchon, vous voyez, pour une fois qu'on se retrouve, c'est...
Est-ce que François Fillon, président de la République, pourrait décider de lever unilatéralement les sanctions qui frappent la Russie contre l'Allemagne et contre la majorité des Européens?
Ce qui est sûr, c'est que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir que l'Europe lève ces sanctions. Je l'ai d'ailleurs déjà dit à Madame Merkel, je pense que ces sanctions n'ont abouti à aucun résultat, sauf à ruiner les agriculteurs français. Donc c'est pas la méthode que j'utiliserais pour essayer de convaincre les Russes de changer de position.
Et de façon unilatérale, ça pourrait se faire, ou vous tentez de convaincre les Allemands et les Européens?
On va commencer par essayer de convaincre les Allemands et les Européens.
Et ensuite il y a un plan. Ah oui, c'est plan A, plan B. Des questions sur l'Europe.
On va passer à l'Europe. La principale raison, François Fillon, de la désaffection des opinions européennes, qui est massive vis-à-vis de l'Europe aujourd'hui, est que l'Union européenne est désormais assimilée à des politiques de restriction budgétaire. Est-ce qu'il y a un moyen de revenir sur cela? Est-ce qu'il y a un moyen, alors que vous, vous voulez, au contraire, accentuer ces restrictions budgétaires pour rétablir, pensez-vous, l'économie française. Est-ce que vous n'allez pas contribuer encore plus à cette désaffection?
Pardon, mais je ne partage pas du tout votre analyse. La raison de la désaffection de l'Europe, c'est le sentiment d'une Europe qui impose des contrôles, qui impose des normes contraignantes, qui n'est pas efficace. Voilà, les Anglais ne sont pas partis à cause de l'austérité budgétaire. C'est le peuple anglais, il a réalisé des économies en termes de dépenses publiques beaucoup plus
pas
importantes.
Imposé, ils sont pas dans l'euro.
Oui, mais non, mais ils sont partis. Ouais. Et c'est eux qui sont partis, c'est pas nous. Donc vouloir absolument vous avez des convictions, voilà, et vous essayez de faire en sorte que le jugement des Européens corresponde à ces convictions. Moi, je pense que l'Europe, ce qui est rejeté, c'est son inefficacité. Mm-hmm. C'est pas la question de l'austérité.
Et alors, l'Europe à plusieurs vitesses, c'est une bonne idée pour pallier cette inefficacité?
La question qui est posée, c'est, on est 27. Est-ce qu'on peut aujourd'hui renégocier les traités? Changer le fonctionnement de l'Europe, c'est-à-dire en gros concentrer l'Europe sur quelques stratégies et rendre aux États toute une série de politiques européennes qui sont ressenties aujourd'hui comme inefficaces et inutiles. Je pense qu'on peut pas y arriver parce que 27 on est trop nombreux, qu'on va faire des ça va durer des années, on va aboutir à un compromis.
Donc il faut agir dans les traités.
Donc il faut agir pour le moment dans les traités et agir dans les ou agir dans les espaces que les traités nous donnent. Donc ce que je propose moi c'est 4 ou 5 initiatives sur la monnaie européenne, sur la zone euro, parce que la zone euro, d'abord, on est moins nombreux. Et il y a un enjeu très important de souveraineté pour l'Europe, c'est comment faire en sorte que l'euro devienne à terme une monnaie qui assure l'indépendance et la souveraineté de l'Europe, donc qui puisse être une alternative au dollar dans le commerce international.
C'est pas le cas déjà,
et qui... Ah non, aujourd'hui, essayez d'utiliser l'euro dans les échanges internationaux, vous avez immédiatement des rétorsions américaines et vous avez la monnaie chinoise qui commence à monter en puissance et on peut penser que dans quelques temps, les Chinois nous imposeront leur monnaie dans les échanges internationaux. Donc la question de l'indépendance de l'Europe passe par une politique de l'euro et de la zone euro que je propose de promouvoir avec les Allemands. Puis ensuite, il y a les frontières, il y a une alliance de sécurité, une alliance de défense. Il y a les questions liées au numérique et à l'indépendance et à la souveraineté de l'Europe dans ces domaines.
François Fillon, l'Europe à plusieurs vitesses ?
Oui, l'Europe à plusieurs vitesses.
Donc l'idée d'Angela Merkel, François Hollande, des Italiens, du Benelux, etc.
Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est la seule option si on veut redonner un espoir aux Européens. On n'y arrivera pas à 27. Il faut que les pays qui sont les plus engagés et qui sont grosso modo les pays fondateurs de l'Union européenne prennent une longueur d'avance et montrent qu'il y a qu'il y a un espoir, qu'il y a une autre Europe possible.
Merci Bernard Guetta. François Fillon, vous restez avec nous. Évidemment, on va écouter la revue de presse. Vous faites la une d'un journal ce matin, Le Point, Fillon face à lui-même, interview à François-Olivier Gisbert que je citais tout à l'heure, où vous dites que vous ne lisez plus que Le Figaro et Valeurs Actuelles. Laetitia Gaillet, ici présente, lit d'autres journaux. On va vous en faire part tout de suite, il est 8h31.